Bonsoir à tous, fidèles auditeurs de la web radio à Revue Info. Nous sommes de retour dans l'émission Santé à la Une. Cette émission qui vous dit tout sur la santé, vous parle de votre droit de santé et vous rappelle votre devoir vis-à-vis de la santé. Santé à la Une, c'est l'occasion de pouvoir discuter avec des spécialistes qui nous parlent des facettes de la santé que nous n'avons pas l'habitude de croiser tous les jours. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons continuer avec la série d'émissions que nous avons entrepris sur les méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes, telles la phytothérapie, la médecine traditionnelle et tout ce qui va avec. Nous continuons avec notre invité du jour qui est Dr Mlatovi Degbe, qui n'est plus à présenter. Il va encore nous développer quelques techniques aujourd'hui pour que nous soyons vraiment bien nourris. Bonsoir Dr Degbe, soyez les bienvenus.
Merci. Bonsoir Dr Gwekle.
Alors un mot pour vos auditeurs qui sont sur la web radio et qui vous attendent impatiemment.
Merci beaucoup, je leur dis bonjour et bonsoir là où ils sont pour nous écouter. Que c'est un plaisir renouvelé de partager le peu de connaissances que nous avons pu glaner tout au long de nos parcours afin que les uns et les autres soient édifiés pour que nous puissions avoir une santé vraiment à la une.
Merci, et comme il est de tradition, je pense que nous allons commencer avec une sonorité musicale à l'africaine, je crois.
Sabel, me dek tamel chole. jusqu'ici. Bienvenue dans ma vie. Hello. Hello. Oh, hello. Hello. Tu peux me faire confiance, te connaître est une chance.
Nous sommes de retour en studio après cette belle mélodie de Yannick Noah et de Assa. Et nous allons maintenant revenir sur le sujet du jour qui n'est plus à présenter, mais on va quand même se faire le travail de pédagogie, de répéter le thème. C'est les méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes. Et il était question, si Dr. Degbé peut se souvenir, de dire ici dans le studio de la Web Radio à Revier, dans l'émission Santé à la Une, quelles sont ces méthodes thérapeutiques endogènes, je précise, qui ont fait les merveilles du passé au niveau du continent africain et qui aujourd'hui s'exportent, hein, je peux le dire ainsi, sur d'autres continents et qui fait vraiment secouer la science pour qu'on puisse vraiment les transformer et que ça soit utile pour nous. Docteur Degbé, soyez les bienvenus encore. Vous avez la parole.
Merci, Docteur Bickley. C'est un plaisir renouvelé pour nous. Là, on avait commencé cette série par les connaissances en immunologie. On a fait la dernière fois les connaissances sur les antiseptiques, la cicatrisation des plaies. Le domaine des connaissances des méthodes thérapeutiques endogènes africaines sont vraiment larges. Aujourd'hui, je choisis de faire venir cette notion de toxicologie. Est-ce qu'en Afrique, on appelle ça la toxicologie? Non. Aujourd'hui, c'est la façon dont nous avons pour parler de cela. La toxicologie, c'est cette branche de la biologie, cette branche de la pharmacologie qui va étudier les toxines, leurs effets, les produits qui vont pouvoir détruire. Parce que l'adage dit, c'est en triturant le poison qu'on fait le remède.
En triturant nos poisons qu'on fait le remède.
Parce que avant de savoir ce qui guérit, on peut savoir ce qui tue. Et ce qui tue, c'est vraiment un large domaine. Mais aujourd'hui, j'avais abordé un tout petit peu dans la dernière émission la notion aujourd'hui de pesticides qu'on va utiliser pour pouvoir entretenir nos plantes. Et en même temps, ces pesticides qui s'avère une nécessité dans le monde aujourd'hui, vu le besoin de production végétale pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population, on est obligé de chercher des méthodes. Et on se rend compte que ces méthodes-là, ces toxines, ces méthodes toxicologiques qu'on utilise pour pouvoir trouver ces pesticides, créent des dangers au niveau de la santé humaine. Alors, la question qu'on va se poser, comment est-ce que dans l'Afrique antique, dans l'Afrique traditionnelle, les gens arrivaient donc à traiter leurs végétaux, leurs légumes, leur production pour que ces végétaux ne soient pas détruits donc par les insectes, par les chenilles et autres. Et on va se poser cette question. Aujourd'hui, tout à l'heure, en voulant justifier entre griffes l'utilisation des pesticides, j'avais parlé de l'augmentation de la population mondiale et le besoin de pouvoir compenser la production. On sait que et avant l'esclavage, l'Afrique était plus peuplée qu'aujourd'hui. Ça, les historiens, les géographes, les paléogéographes, ils l'ont très bien montré que l'esclavage a entraîné un dépeuplement de l'Afrique. Donc, si on est sûr et certain que l'Afrique était très peuplée à l'époque d'avant l'esclavage, mais toutes ces populations-là se nourrissaient. Et ces populations n'importaient pas les produits comme aujourd'hui on le faisait. Ce qui veut dire que tout ce qui était produit localement. Et en même temps, on doit savoir que nous sommes en Afrique et en Afrique, le climat est propice au développement des insectes qui vont donc détruire les récoltes. Comment est-ce que les Africains arrivaient donc à réguler la population acridienne, la population des druches, la population de tous ces insectes, de toutes ces chenilles-là qui vont détruire la production?
Ça c'est une question digne d'un sujet de thèse.
Tout à fait.
Pour celui qui s'engage, je pense, dans la biotechnologie végétale ou bien s'engage dans tout ce qui est le végétal ou bien le bio.
La conservation, voilà. Donc tout cela. Parce que aujourd'hui, pour conserver, parce que tout le monde en parle, quand tu achètes, la dernière fois j'étais parti, je te le dis comme ça, j'étais parti acheter le maïs, sérieusement, j'ai écrasé, mais on n'a pas pu manger la farine. Tout simplement que ça puait le médicament. On y a tiqué, ça sentait le médicament. Parce que pour conserver...
Comme ça, vous l'avez senti?
Non, ça se sent, ça se sent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'approches du maïs qui n'a pas reçu donc, ces produits de conservation, on le sait, l'odeur c'est totalement différent. Mais quand on a mis ces produits dedans, ça aussi tu le sens. Vu que moi j'ai déjà un problème d'allergie et que j'ai le nez très très, très sensible, on n'a pas pu manger. On n'a pas pu manger.
Alors, dites-nous, lorsque vous parlez de ces problèmes-là, oui. Et vous faites souvent, sûrement allusion au fait qu'aujourd'hui, ce que nous mangeons devient notre poison.
Exactement.
C'est là où vous voulez en revenir.
Justement, les études sont là. On a retrouvé dans la graisse, dans le tissu, des traces de DDT, des traces de tous ces pesticides qu'on est en train d'utiliser. Nous sommes en pleine réalité des problèmes de chlordécone dans les Caraïbes où les gens, les cancers. Nous sommes en pleine réalité en Amérique latine, en Argentine, avec le production de soja transgénique. Tous ces pesticides, des enfants qui naissent sans bras, sans oreilles et tout cela. Aujourd'hui, on est en plein dedans dans la production chimique. On est d'accord? On est en plein dedans dans la production chimique. Et on se demande... Cette production chimique, cette utilisation excessive des pesticides et des herbicides, tout cela, on regroupe ça sur le thème de pesticides. Ça entraîne beaucoup d'autres problèmes, tels que la diminution des rendements, parce que ces pesticides-là ont des effets vraiment nocifs sur les insectes, les abeilles et tout cela. Or, ces abeilles sont indispensables pour la pollinisation. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est un problème réel et nous sommes en train de revenir, on est... L'actualité, je suis en train de mélanger un peu le sujet, mais l'actualité nous a dit à le dire. Il y a deux ou trois jours, je suivais sur RFI que des chercheurs allemands et suisses, ils sont venus en Afrique et ils sont en train de constater que tout ce qu'on a comme antibiotique contre les entérobactéries ne marche plus. Et que le danger, c'est que les enfants qui n'ont pas de ces entérobactéries et qui vont en consultation pour le paludisme ou autre en ressortent contaminés. Et que les médicaments en pharmacie aujourd'hui ne marchent plus sur les entérobactéries.
Ça, c'est la grande problématique qu'on a aujourd'hui sur tout ce qui est microbiote.
Justement.
Et tout ce qui est probiotique.
Justement.
À utiliser pour compenser la perte de ces microbiotes-là. Justement. Je pense que ça va être un sujet vraiment
sur lequel on va revenir.
Mais nous n'allons pas quitter forcément cet aspect-là, mais voir dans quel sens les méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes pourront nous aider aujourd'hui à enrayer ces conséquences-là néfastes de l'utilisation justement de ces produits que sont les pesticides. Parce qu'on n'a pas le choix.
Aujourd'hui,
lorsque nous prenons 80% des productions, c'est avec des semences importées, oui. C'est avec des intrants comme les pesticides. Justement. Mais comment faire pour pouvoir survivre dans ces conditions-là?
Exactement.
En utilisant justement des techniques que nos mamans utilisaient, nos papas utilisaient, bref, que nous utilisions de par le passé.
Justement. Tu viens de toucher du doigt.
Je peux redire. Hein, oui. Comment faire pour ne pas avoir des maladies
justement.
Tout en consommant ces produits-là aujourd'hui?
Ah
peut-être
oui. Le problème.
Voilà, en se servant toujours des techniques anciennes.
Très bien. Tout à l'heure, quand tu as repris avec les probiotiques et tout cela, cela me fait voir l'acuité ou bien l'intérêt d'aller rechercher les méthodes antiques. Tu vois, quand on va parler des antibiotiques tout à l'heure, les méthodes, la chimiothérapie, la chloroquino-résistance qui est en train de s'installer, on a vu que les Amérindiens utilisaient le cinchona, cette plante-là, pendant des millénaires, ils n'ont pas développé de résistance.
Effectivement.
On a vu que les Chinois utilisaient...
Alors ça, c'est assez étonnant, hein, parce qu'on se rend compte, malgré la diversité des principes actifs qu'il y a dans les végétaux, c'est difficile d'avoir ce phénomène de résistance.
Parfait.
C'est très difficile.
Parfait.
Il n'y en a pas à ma connaissance.
Tu as touché du doigt le problème réel. Parce que les gens utilisaient donc des plantes, et dans une plante, il y a une diversité de principes actifs qui fait que ça attaque
donc le parasite et le tue sur le champ et ne lui donne pas la chance de faire donc de la résistance. On avait utilisé, les Chinois utilisaient de l'artémisia annua, hein, eux-mêmes le caoutchouc, quelque chose comme ça, ils l'appelaient comme ça. Pendant des millénaires, on a vu des publications, on a vu le écrit ancien datant des millénaires sur l'utilisation de l'artémisia pour traiter le paludisme. Pendant des millénaires, il n'y a pas eu de résistance donc de parasites, des coccidies, donc de Plasmodium falciparum et tout le reste contre l'artémisia. Mais on a commencé à extraire la chimiothérapie, à utiliser donc l'artémisinine, les principes actifs purifiés. Et déjà, des chercheurs sont en train de dire que des résistances sont en train d'apparaître. Vous voyez.
Si, si.
Et vous voyez, le problème, il y a l'enjeu commercial, l'enjeu politique qui est derrière. Je suis sûr que vous avez entendu parler du chercheur congolais qui a montré que, au fait, la plante d'artémisia annua, l'infusion d'artémisia annua, traite parfaitement mieux le paludisme contre tout antipaludique qu'on est en train de donner. Et il a montré, c'était un médecin. Tu sais qu'on l'a tué, il était mort, on l'a pris devant sa femme et ses enfants comme ça, il a été tué. Et tu sais que, je le dis entre parenthèses, mes premiers travaux de thèse étaient sur artémisia annua. On a testé des extraits de artémisia annua sur Toxoplasma gondii. Les résultats étaient époustouflants. Je te le dis comme ça. Et la première année, j'étais allé à l'université de Tours, François Rabelais de Tours, avec les extraits. Il n'y avait pas eu de problème. Quand on a travaillé, les résultats sont sortis. On nous a interdit d'importer artémisia, que artémisia annua est une plante interdite d'utilisation en Europe.
Avec leur, ils ont assez de directives là-bas et puis de réglementation.
Justement.
Qui empêche l'exportation du bio.
Tout ça là.
Si ce n'est pas retracé un certain nombre de choses.
Ah oui, on ne peut pas rentrer dans les détails.
Dans les détails. C'est mais justement... toujours est-il que l'artémisia annua dont on parle
oui.
est une plante qui est très efficace, très non bien. Seulement dans le traitement du paludisme, oui. mais également dans le traitement d'un certain nombre d'affections.
Tout à fait, d'affections. Tout à fait.
Lorsqu'on le dit, ce n'est pas pour se vanter, mais ce sont des faits.
Exactement.
Puisqu'il y a, au-delà de votre expérience, il y a quand même des études qui ont prouvé l'efficacité qui sont allés jusqu'au bout, qui ont prouvé l'efficacité.
Justement. Finalement, on a fait une communication dans Swashim avec et l'article était finalement sorti, mais on n'a pas pu retracer tout ce que nous avons fait sur artémisia annua. C'est justement pour te rejoindre sur ce thème que les méthodes traditionnelles avaient prouvé leur efficacité pendant des millénaires et on se dit brusquement, on les avait abandonnées. Et ce qui est en train de se passer, les détenteurs de ces savoirs ancestraux sont en train de partir. Et tu as vu ce qui est arrivé aux hiéroglyphes? Les Africains étaient incapables de pouvoir lire encore les hiéroglyphes parce que la transmission du savoir, là, à un certain moment, s'était arrêtée. Et c'est ce génocide culturel qui est en train de se perpétuer avec les méthodes thérapeutiques ancestrales africaines que nous devons maintenant reprendre et nous avons l'obligation de le reprendre, non comme revendication culturelle, non comme identification culturelle, mais comme participation au savoir de l'humanité, parce que peut-être dans un futur à venir, ce sont ces méthodes antiques qui vont encore servir de source pour trouver d'autres remèdes, d'autres solutions aux maux qui se posent dans notre société. Et exactement, nous en sommes plein dedans. Les pesticides sont là. En Afrique, quand j'ai commencé à... Comment est-ce que ceci m'est arrivé? J'étais allé en France et il y a une dame là-bas, tu sais, les poux. Chez nous ici, les poux, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Mais là-bas, il y a les poux, je te dis. Et ils utilisent des produits pour pouvoir traiter les poux. Mais on voit qu'en même temps, ces produits sont toxiques, ils créent des lésions au niveau de la peau. Et la dame me demande, tout à l'heure, elle vient de m'appeler encore, comme une coïncidence. C'est une scientifique qui travaille à l'université François de Rabelais de Tours. Elle me demande, mais en Afrique, chez vous là-bas, il n'y a pas de... Quand les gens ont des poux là, ils n'ont pas entendu des produits des blancs pour pouvoir les traiter. Ils ont des produits pour tuer les poux dans les cheveux des gens. J'ai dit oui, il faut aller les chercher. C'est ainsi, en 2014, j'ai commencé à faire des recherches sur les connaissances toxicologiques des méthodes endogènes africaines qui utilisaient. Et j'ai vu les ngontronti, la ngon là c'est chenille, tron c'est détruit, ti là c'est poudre. Les poudres qu'ils utilisaient pour traiter, par exemple, leur adémen qu'ils devaient consommer, parce que l'adémen, tu sais que c'est cocorus, c'est une plante
qu'on utilise presque dans toute l'Afrique de l'Ouest, oui, mais qui est très attaquée par les chenilles.
Elle est encore appelée le clin-clin.
Le clin-clin, oui, voilà, oui, okay. Exactement. Voilà. Donc, c'est la plante, la plante là qui fait les légumes gluants là qu'on mange.
Effectivement.
Donc, ils avaient des plantes, ils avaient des graines qu'ils écrasaient, ils mettaient avec de la cendre et aspergeaient. Et vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Au bout d'un certain temps, vous voyez les chenilles qui tombent des feuilles et qui sont mortes par terre. Et tenez-vous bien, ce qui est encore avantageux, en même temps, ce qui tue les chenilles, comme tu vois comme ça là, au bout d'un certain temps, on peut très facilement consommer ces légumes. La consommation ne crée aucun dommage pour l'humain. L'avantage de ces méthodes ou bien de ces molécules traditionnelles, c'est que ce sont des biomolécules. Et ce qui caractérise les molécules de la vie, c'est qu'ils ont des demi-vies très très réduites. Ils sont biodégradables. Quand vous les mettez dans la nature, au bout d'un certain temps, ils sont recyclés. Parce que l'intelligence qui était dans la nature a su faire les choses de telle façon que tout peut s'altérer et se recycler. Aujourd'hui, quand on revoit la technologie occidentale, ils créent des molécules qui n'arrivent pas à se détruire. Les plastiques, tout cela, ce n'est pas naturel. Ça ne se détruit pas, ce n'est pas recyclé. Et cela crée un problème. On a fait des études.
Je pense qu'il y a même des données hein, qui parlent du temps fou mis par les médicaments qui ne sont pas consommés à être dégradés.
Dégradés.
Alors, ça prend assez de temps comparé à des totaux de plantes
qui
sont facilement dégradables.
Justement.
Je pense que ça, c'est une problématique que même ils ne commencent pas déjà à sentir et ils doivent déjà penser même à trouver des solutions pour ça.
Exactement. On est obligé.
Voilà.
Parce que quand vous créez une molécule, c'est comme, je vais faire une comparaison qui n'est pas, je dirais, autorisée, qui n'est pas, ben je le dis comme ça. Vous voyez qu'il y a des mines. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des champs de mines, on avait placé des mines. Ces mines-là, tout n'avait pas été déminé. Et aujourd'hui, ça continue pas à exploser et à créer des dommages au niveau de la population. C'est la même façon que le chimiste qui rentre en laboratoire, le pharmacien, qui arrive à synthétiser une molécule. Il arrive à synthétiser la molécule, mais la molécule, en rentrant dans la vie, n'arrive pas à être détruite. Elle va continuer par provoquer des interactions dans la nature. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas des études d'impact à long terme de ces molécules-là. On les met, on commence à boire. Aujourd'hui, on retire beaucoup de molécules sur le marché. C'est après que beaucoup de personnes sont mortes et tout cela, on se rend compte que bah, vraiment, ça a des effets secondaires, vraiment incapables. Les exemples sont très longs. Quand on a fait les cours de pharmacologie, les thalidomides qui ont été retirés, qui ont des effets oncogènes, qui ont entraîné la tératogenèse chez des individus. Mais pourquoi en Afrique, les plantes qu'on utilisait, les méthodes toxicologiques qu'on avait, pourquoi ne pas encore les réinterroger et encore prendre de ces molécules-là pour pallier, pour trouver une solution aux maux qui se posent dans notre société? On dit que les méthodes les plus anciennes sont toujours les plus efficaces.
Les méthodes les plus anciennes sont toujours les plus efficaces. Je pense que là, vous venez de nous donner l'essentiel de l'information d'aujourd'hui.
Oui.
Et pour les auditeurs qui n'étaient pas connectés au début, ils doivent savoir que nous sommes dans l'émission Santé à la Une. Aujourd'hui, nous parlons des méthodes thérapeutiques traditionnelles endogènes. Mais nous n'avons pas forcément ciblé là une maladie, mais plutôt oui. Nous avons trouvé les mécanismes qui étaient utilisés
justement
pour pouvoir rendre plus sains nos aliments que nous mangeons.
Oui.
Et là, justement, on parlait de l'utilisation des plantes
oui.
pour pouvoir détruire ou bien pour pouvoir tuer les parasites, les ennemis des aliments que nous consommons.
Tout à fait.
Et ça, c'est une technique que nous pouvons dire traditionnelle, que nous pouvons toujours utiliser aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Soit pour nous protéger contre les ravageurs, au lieu d'utiliser des produits chimiques, que sont par exemple les pesticides,
oui.
ou soit carrément pour pouvoir désintoxiquer le produit déjà utilisé qui contient un certain nombre d'intrants que sont les pesticides
okay.
pour que ça ne nuise pas à la santé.
Tout
Je crois que nous allons encore donner des détails après par rapport à ça, mais nous allons souffler un peu en musique.
À musique.
Et avant de revenir pour d'autres détails.
Tout à fait, Dr. Bickley.
Yeah, I'm soin valipoué, pitié de moto. N'y a soin valipoué, pitié de moto. Faut foi de que me l'inamo, ma toa domenyanao, a ma de que me la chine. Ne maglo ni nyawo nao, no viere que me linamo, ma toña dome nyanao se. Nya maison valipoué, pitié de moto. Nya maison valipoué, pitié de moto. No vine o avica biela, o lo bevi o de. Mo pom pom linamo, vivi tigondo dem. Nyakbe mo yo ple plani son, to trombo magalibo. Nya mezwa valipwe, vite monto. Nya mezwa valipwe, vite monto.
Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
À l'instant, c'était Angeli Kidjo et c'était un vrai tremplin pour la deuxième partie de notre émission Santé à la Une que nous animons aujourd'hui sur le thème les méthodes traditionnelles thérapeutiques endogènes avec l'invité du jour qui est Dr Malatovi Degbe. Il va nous donner encore quelques éléments de compréhension sur ces techniques-là. Nous avons parlé dans la première partie des méthodes utilisées pour pouvoir mieux conserver les aliments, pour pouvoir éviter l'intoxication, l'intoxination ou tout ce qui pourrait rendre indigeste l'aliment et voire tuer l'individu. Et ces méthodes-là qui sont utilisées de par le passé ont toujours été une des meilleures méthodes utilisées par l'être humain sur la Terre.
Tout à fait.
Alors, Dr Degbe, dites-nous, à part les techniques que vous venez de nous montrer, de venir de nous expliquer dans la première partie, quelles autres techniques nous pouvons encore utiliser? Nous allons rester toujours dans la veine de comment sécuriser ce que nous mangeons.
Oui.
Parce qu'il y a un célèbre adage qui dit « Votre nourriture est votre médicament ».
Exactement. Tout à Alors, fait, Dr Degbe.
De la même manière, il y a un autre qui dit que votre poison, c'est votre nourriture également.
Oui.
C'est-à-dire, la nourriture peut à la fois être le médicament, peut être le poison.
Oui.
Donc, c'est très important de pouvoir sécuriser ce que nous mangeons pour que ça nous apporte plus de bien que de mal.
Tout à fait. Rien n'est poison, tout est poison et c'est la dose qui fait le poison. Et l'autre qui dit, l'homme ne meurt pas, il se tue et il creuse sa propre tombe par ses dents. Ce qui veut dire que c'est ce que nous mangeons qui nous tue. Aujourd'hui, nous avons voulu partager avec les bien-aimés sur les connaissances toxicologiques de l'Afrique antique ou bien de l'Afrique traditionnelle. Et il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, la toxicologie est la base et est le moteur, un des grands moteurs même de la recherche en pharmacologie. Parce que ce qui peut entraîner la mort, le maîtriser peut donc entraîner la vie. Donc, nous avons déjà cité les connaissances des plantes en Afrique pour pouvoir lutter contre les chenilles, pour pouvoir lutter contre les insectes envahisseurs, pour pouvoir conserver le maïs, pour que les druches, les insectes ne puissent pas détruire cela. On va aussi parler des méthodes, des extraits de plantes qui vont utiliser, par exemple, pour la chasse. Aujourd'hui, on parle un peu partout du cura. Quand tu prends dans un livre de physiologie, d'électrophysiologie, on va parler de cura. Au fait, ces connaissances sont des connaissances endogènes africaines. Mais le cura, vous savez, il y a comme un complot. Il y a comme un complot. Tout ce qu'on a, on découvre, on ne va pas dire que c'est en Afrique qu'on a trouvé ça. On va dire que soit c'était en Asie, soit c'est chez les Amérindiens. Alors que toutes ces connaissances viennent de l'Afrique. Le cura, vous allez voir...
Je crois que c'est justement pour... pour pouvoir pallier à ça, qui nous font un travail de mémoire.
Travail de mémoire.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Tout à fait.
Parce qu'il va falloir restituer l'histoire dans sa globalité, dans sa spécificité.
Les Anglais disent « stolen legacy ». On nous a volé notre légalité, notre possession, notre héritage. Il faut qu'on se réapproprie de cela et qu'on arrive à... Quand je te vois...
Ça va passer par la communication, par une bonne communication sur tous ces aspects-là de la chose.
Tout à fait. Je ne t'ai jamais dit, mais quand je te vois comme ça, ça me fait penser à Akhenaton. Tu vois, Akhenaton, ce pharaon révolutionnaire, avec sa barbe, tête très là, justement... Ça me fait penser à ça. Ça veut dire qu'il faut que nous retrouvions ce qui nous avait été volé. Et quand je parle, par exemple, au sujet de cette connaissance, le cura est utilisé aujourd'hui. Tout à l'heure, on corrigeait les copies, les épreuves du baccalauréat. Cette année, les jeunes élèves de la terminale D vont savoir que le cura était venu sur leur copie. Et ça revient presque tout le temps. On essaie d'étudier la transmission synaptique. Comment on peut mettre une flèche sur l'animal, même si la flèche ne blesse pas l'animal totalement, l'animal est paralysé. C'est que ce cura va arrêter la transmission synaptique. L'animal est vivant, mais il ne peut plus bouger. Ça arrête la transmission entre les nerfs et le muscle.
Ça permet à ce qu'on puisse le récupérer.
Le récupérer vivant.
Soit venir le dompter ou bien venir le consommer.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Parce que parfois, dans les recettes africaines, il faut que l'animal soit vivant pendant un certain temps avant qu'on puisse faire les pratiques et autres. Parfois aussi, comment on arrive. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se dire. Hein. Les Africains étaient les premiers dompteurs. Hein. On domptait les lions. Hein. Quand on parle de Haile Selassie, les rois de l'Éthiopie, hein, on savait qu'ils avaient des lions. Hein. Ils, ce sont des éleveurs de lions. Quand on parle encore aujourd'hui au Mali, ce sont les gens qui domptent des hyènes. Et comment ils arrivaient à dompter, à les attraper, tout cela, ce sont des connaissances. Donc, par exemple, ce cura-là, c'est extrait d'une plante, ce sont des cucurbitacées. Vous voyez des trucs de la famille des plantes, des calebasses, qui, les plantes grimpantes là, qui font des lianes. Ce sont ces plantes-là qui produisent cette substance-là et qui va donc servir pour pouvoir tuer les animaux. Les Africains utilisaient beaucoup leurs connaissances toxicologiques aussi dans les ordalies. Tout le monde a lu peut-être la mamie de Kokambala. Hein?
Bien sûr.
La mamie de Kokambala, où quand on accusait quelqu'un de sorcellerie, parfois, on lui faisait boire l'unkasa. L'unkasa, c'est une mixture de plantes. Et quand la personne n'est pas sorcière, ça va provoquer juste de simples vomissements. Mais si la personne est sorcière, ça peut le tuer. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire...
C'est quand même mystérieux, cette pratique, et pourtant, qui a tout de scientifique, apparemment.
C'est scientifique.
Vous savez... Parce que ça ne tue pas au hasard.
Non!
Ça ne tue que celui-là qui est vraiment en faute.
Justement.
Et donc, avec ma petite curiosité, je me suis rendu compte que la plante agissait et tout en reconnaissant certains signaux chez la personne qui dégageait des hormones.
Et très donc, bien, tu as du nez vraiment.
Carrément, c'est scientifique, mais bon, il n'y avait que le spécialiste qui savait ce qu'il faisait.
Très bien, parce que tu viens de dire quelque chose. Vous savez, on peut mentir, on peut renier les choses, là, mais l'organisme humain est fait de telle façon que quand tu es coupable, il y a les hormones de culpabilité que tu vas sécréter.
Sans le savoir.
Sans le savoir.
Tu as beau cacher,
mais aujourd'hui, vous voyez, quand les gens des services secrets, ils mettent des aiguilles sur les bouts des doigts, ils analysent la dilatation des pupilles, les détecteurs de mensonges et tout ça là, ça les Africains connaissaient. Parce qu'il y a certaines hormones, quand une personne est coupable et quand la personne est là et on est en train de parler, il va sécréter. Or, bon, on est en train de voir que les extraits de plantes en contact avec ces hormones, ces indicateurs que la personne va sécréter, va déclencher une autre réaction. Vous savez, chez deux personnes, si telle personne a certains marqueurs spécifiques, l'autre n'a pas ces marqueurs, dans la science exacte que nous étudions aujourd'hui, quand on met un produit en face, celui qui a ces marqueurs-là, il va flancher. Il va y avoir une réaction spécifique. Est-ce que vous voyez? Cette connaissance-là, les ancêtres l'avaient. Les ancêtres l'avaient. Et je dis... Plus, c'était à partir de 2014-2015 que j'étais retourné pour aller étudier les connaissances qui étaient cachées dans la culture africaine, dans le vaudou et tout cela. Et je le dis toujours, un des déclencheurs, c'était une des conférences que le révérend père Éric de Rosny, celui qui était devenu Nganga au Cameroun, qui a écrit Les yeux de ma chèvre, Les yeux ouverts dans la nuit, hein. Ce sont ces personnes-là...
Ce sont des titres cultes.
Oui, cultes. Ce sont des œuvres que j'ai lues. Et j'ai eu la chance de voir Éric de Rosny à l'Université de Lomé venir faire des conférences. Et je me suis dit, tiens, nous avons des connaissances ici. Et il le dit que l'Afrique a des connaissances vraiment et pour traiter beaucoup de maladies. Il a fait beaucoup d'écrits là-dessus. Mais nous-mêmes, les Africains, nous sommes là et on nous disons que tout ça, c'est du voodoo. Tout ça, là, ça n'a pas d'importance. On est en train de balayer d'un revers de main. Je pense que nous sommes à l'heure où des enjeux, où les méthodes thérapeutiques et modernes que nous avons sont en train de s'essouffler, sont en train de montrer leurs limites. Nos antibiotiques sont confrontés à la résistance des bactéries, à la résistance de beaucoup de germes pathogènes. Nos médicaments contre l'hypertension, tout ça là, c'est en train de montrer leurs limites. C'est l'heure de retourner à la source. Hein. On dit que
Il faut des éveilleurs de conscience
justement
pour expliquer justement comment ça doit se faire pour qu'on ne perde pas ces valeurs là.
Tout à fait.
Qu'on puisse les utiliser aussi à de bonnes fins.
D'où l'intérêt de toutes ces émissions pour que les décideurs
s'ils nous écoutent,
ils nous écoutent, puissent investir dedans. Vous savez, j'ai tellement à raconter sur ce genre de choses qu'on n'aurait pas le temps de finir. Parfois, hein.
Non, mais ce que vous dites, c'est très important parce que aujourd'hui, un peu partout, lorsqu'on assiste à des colloques, à des journées scientifiques, tout tourne autour de la plante.
Exactement.
Tout tourne autour des valeurs endogènes. On nous dit qu'il va falloir revisiter ce patrimoine-là que nous sommes en train d'abandonner, que nous sommes en train de négliger. Parce que c'est de là que va sortir vraiment la panacée pour les problèmes de l'humanité.
Amen, amen. Merci. Merci. Parce que et chaque jour qui passe, et c'est comme, vous savez, on a la connaissance derrière et notre acuité visuelle. Au fur et à mesure que nous nous éloignons, on ne peut plus avoir la maîtrise parfaite. Est-ce que tu vois? On a encore certains praticiens, on a encore des Gaulois. C'est-à-dire que je vais dire des gens qui résistent encore. Mais pendant combien de temps? Tant que la culture, la monoculture occidentale est en train de tout envahir et ils ont la puissance économique qui va avec, ils ont la puissance politique qui va avec, ils ont la puissance spirituelle qui va avec. Aujourd'hui, toutes les sphères sont colonisées et on tend vers l'uniformisation à l'occidental. Et ce sont ces occidentaux eux-mêmes qui ont commencé les premiers à alerter que, attention, il faut une biodiversité. Il faut qu'il y ait une diversité culturelle. Nous avons voulu imposer notre culture à toute la terre, mais on se rend compte que notre culture n'est pas forcément la meilleure. Alors, il faut que l'autre aussi existe. Et ils sont revenus vers nous pour nous dire que non, les amis, ce que vous faites là, on vous a dit que c'était mauvais, c'était du vaudou, tout ça. Non, c'est bon. On dit que non, ne venez pas, toi, vous êtes le diable. Vous nous avez dit que c'était le diable, on a abandonné. Maintenant, vous nous dites que c'est bon, on va reprendre. Non, nous, on veut aller au paradis, on ne veut plus toucher à ça. Donc, il va falloir que on fasse un travail. Hein. Et quand je te dis, quand en ce moment-là, je faisais ma thèse et j'étais en train de faire l'ethnobotanique, en train de récolter des informations chez des gens, il y a beaucoup de mes amis qui me fuyaient. Que maintenant, il ne fait que fréquenter les mamies ici, que le gars-là, il n'est plus sûr. Est-ce que vous voyez? Alors que
c'est l'occasion de leur dire que dans la méthodologie scientifique, toute source de vérité ou bien toute source de connaissance doit être visitée.
Tout à fait.
C'est pas parce que vous visitez un mamie ici, vous visitez un traduit praticien,
mais ce sont des gens qui guérissent les gens tous les jours.
Que vous êtes devenu la chose.
Exactement. Et il y a ça, il faut qu'on se dise une vérité. Dans les mosquées, dans les églises, quand l'Africain a un problème de santé, il va une fois à l'hôpital, il n'arrive pas à trouver solution. Ils se retrouvent chez ces personnes-là, mais ils se cachent pour y aller parce qu'il y a un rejet superficiel, mais l'Africain est attaché à ces méthodes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir qu'on arrive à comprendre ce qui est dedans pour pouvoir aider les gens à s'en sortir.
Et justement, j'allais même dire que normalement, c'est l'enjeu même actuel, c'est-à-dire avec le développement de la technologie, on doit normalement démontrer notre génie.
Tout à fait.
En utilisant cette technologie-là pour pouvoir mieux préserver nos savoirs traditionnels.
Tout à fait.
On peut les retransformer.
Et peut-être même mettre la main là-dessus.
Voilà.
J'y viens parce que la dernière fois, j'ai entendu que la Côte d'Ivoire a labellisé la Tchéké. Que la Tchéké, maintenant, l'OAPI lui a donné.
Alors, il y avait quand même une bagarre entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Ça a été tranché. Parce que c'est vrai, la Tchéké mangeait en Côte d'Ivoire, la Tchéké mangée est produite plus en quantité en Côte d'Ivoire. Mais les premiers à avoir eu l'idée de labelliser étaient les Burkinabés. Enfin, ils ont eu à le présenter lors des salons de l'agriculture.
Oui. Depuis les premiers. Le président là, qui était assassiné,
Thomas Sankara,
il avait fait un travail vraiment. Ce sont des gens qu'il faut encourager.
Surtout qu'en principe, ça ne devait pas créer un problème parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il n'y a qu'une question de barrière.
C'est le colon qui est venu tracer les choses. Parce que nous-mêmes, on se querelle.
La Côte d'Ivoire, la Basse Volta, le Burkina Faso, la Haute Volta, ce ne sont que tous les mêmes peuples.
Justement.
Donc,
justement.
Que ce soit labellisé par la Côte d'Ivoire ou bien le Burkina, essentiel, c'est que l'Afrique a labellisé un plat typique africain. Alors, revenant à notre sujet, ce serait bien que vous donniez une conclusion.
Oui,
une synthèse, disons, de comment nous pouvons utiliser ces techniques thérapeutiques endogènes pour mieux conserver ce que nous mangeons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet du jour.
Tout à fait.
Qu'est-ce que nous mangeons? Comment nous pouvons sécuriser cela pour avoir une santé durable?
Merci. Merci, Dr. Gwekle. Cette approche va être sur plusieurs paramètres. D'abord, dans la conservation de nos céréales, de nos produits, par exemple, il n'y a rien que certaines feuilles qu'on va déposer dans le maïs ou bien dans le haricot qu'on va mettre en boîte. Simple citronnelle, Cymbopoccon citratus, qu'on va mettre dans les céréales et on enferme quelque part. Les essences, vous voyez, les huiles essentielles que ça va dégager, constituent en même temps un produit qui va parfumer par contre les maïs, parfumer les céréales que vous avez conservées et en même temps donner la santé. Et aussi, il y a certaines plantes qu'on va prendre par exemple qui ont des propriétés de détoxification. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces poisons, les pesticides qui se trouvent sur les fruits et légumes de jardin que nous consommons, ils vont passer par le foie. Et le foie est central pour notre vie. Et ça crée des dommages au niveau des cellules hépatiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines plantes, hein, par exemple le thé de Gambie qui est devenu très populaire. C'est une plante qui a une activité hépatoprotecteur. Est-ce que tu vois? On va prendre papatari. Papatari, il y en a plusieurs, mais je vais donner. C'est là aussi l'avantage de la science moderne, hein, la nomenclature systématique. Quand on donne, on sait que vraiment c'est la plante. Par exemple, quand nous sommes en train de valoriser la connaissance traditionnelle, mais nous ne sommes pas dit qu'elle est parfaite. Quand on dit par exemple papatari, toutes les plantes qui vont faire des fleurs blanches en haut, on va les appeler papatari. Mais quand on dit papatari ceci, ça va donner plus de précision. Quand je dis gonfrena, c'est le zéides tout à l'heure. Quand tu tapes ça un peu sur n'importe quel moteur de recherche, ça va te faire sortir exactement le gonfrena, c'est le zéides. Le gonfrena, par exemple, j'ai un ancien, qui souffre de constipation chronique tout le temps. Il y a des problèmes. Je lui dis, mais il a pris tous les produits de l'hôpital, tout ça là, ça ne marchait pas. Et je lui ai dit, mais gonfrena, papa, t'as dit, tu connais. Tu prends, tu mets en infusion ou tu presses le jus, hein, crude extract, hein, l'extrait naturel là, et tu bois. À l'heure de temps, il a trouvé satisfaction. Donc, tout ce que nous mangeons, il y a du poison dedans, on doit se détoxifier. Et les méthodes, et ça nous rejoint par exemple, regardez, dans l'ancien temps, je suis sûr que si tu es né en Afrique, tu as subi ça, le purgatoire, le bain-toi.
Monsieur.
Le bain-toi. Ce sont des techniques, hein, quand on mange, on arrive à un moment, on sait que le corps, c'est comme une machine. Nous faisons le vidange pour nos moteurs, pour nos voitures. On met les choses pour les purifier. Ça, c'est la méthode de purification. On va en venir. Ce sont des méthodes traditionnelles endogènes qui aident à vivre. Tu vois, les gens ont des sels, des problèmes pour faire des sels. Il y a des résidus, des déchets qui sont dans notre corps. L'Africain savait se purifier. Il y a soit il va boire une infusion, il va éliminer tous ces déchets qu'il a dans son corps, il va se sentir léger, il va redémarrer. Soit il va faire bain-toi, on met à l'enfant et en un rien de temps, tu vois que l'organisme même est purifié, est détoxifié et la personne repart alerte. Est-ce que tu vois? Donc nous avons beaucoup de connaissances chez nous. Il va falloir que nous nous faisons confiance, que nous nous acceptions et faisons valoriser ce que nous avons.
Faisons valoriser ce que nous avons, c'est la plus belle des conclusions que nous pouvons obtenir de cette émission.
Merci.
Tant vous avez parlé, vous avez vanté les mérites de cette technique traditionnelle endogène. Nous allons nous donner rendez-vous pour la prochaine fois, pour la dernière séquence de cette série d'émissions.
Oui.
Et d'ici là, nous allons inviter nos auditeurs à revisiter le site de la revue Info. Il y a les podcasts qui sont disponibles, à réécouter nos anciennes et d'un ancien numéro et à mieux s'en servir. Merci à Miss Darley qui était à la partie technique. Merci à vous-même, l'invité du jour, Dr. Degwe. Et quant à moi-même, je vous dis au revoir et à la prochaine.
Merci, Dr. Degwe.
Wiwi Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
À Wiwi Web Radio.